Chapitre 8. La lagune aux sirènes. Si vous fermez les yeux, avec un peu de chance, vous apercevrez parfois un vague étang aux teintes pastel suspendu dans le noir. Pressez vos yeux un peu plus fort, l'étang prendra forme. Les couleurs deviendront si vives que si vous pressez encore, elles s'embraseront. Mais juste avant qu'elles ne s'embrasent, vous verrez la lagune. C'est le point suprême que vous puissiez atteindre sur le continent, et seulement l'espace d'un délicieux instant. S'il pouvait y avoir deux instants, alors vous verriez les vagues et entendriez le chant des sirènes. Les enfants passaient les longues journées d'été sur la lagune, à nager, flotter, jouer dans l'eau avec les sirènes. N'en concluez pas que les sirènes les traitaient en amis. Bien au contraire, ce fut l'un des plus vifs regrets de Wendy, de voir que tout le temps qu'elle vécut dans l'île, elle n'en reçut jamais un mot poli. Quand elle longeait à pas feutrer le bord de la lagune, elle pouvait les voir par la fente d'un rocher, se dorant au soleil sur l'îlot des abandonnés, pour lequel elles avaient une prédilection, ou peignant leur chevelure avec une indolence qui irritait la fillette. Il lui arrivait de nager vers elle, pour ainsi dire sur la pointe des pieds, jusqu'à une dizaine de mètres, mais dès qu'elle l'apercevait, elle plongeait en l'éclaboussant tout exprès de leur queue. Seul Peter jouissait d'un régime de faveur. Il venait bavarder avec elle sur le rocher des abandonnés, et s'asseyait à cheval sur leur queue quand elle se montrait par trop insolente. Il avait même donné à Wendy un de leurs peignes d'écailles. La période la plus fascinante pour observer les sirènes est celle du changement de lune, lorsqu'elles émettent d'étranges gémissements. Mais alors la lagune est dangereuse pour les mortels, et jusqu'au soir dont il va être question, Wendy n'avait jamais vu la lagune au clair de lune, moins par peur, car Peter l'aurait accompagnée, que parce qu'elle exigeait que tout le monde fût au lit à 7 heures. Elle aimait se rendre à la lagune, surtout les jours où le soleil brillait après la pluie. C'est alors que les sirènes se rassemblent par centaines et jouent avec des bulles multicolores faites d'eau et d'arc-en-ciel. Elles s'en servent comme de ballons qu'elles se lancent l'une à l'autre d'un coup de queue jusqu'à ce qu'elles éclatent. Les deux extrémités de l'arc-en-ciel forment les buts et les gardiennes de buts n'ont le droit de se servir que de leurs mains. Plus les sirènes sont nombreuses, plus le spectacle est attrayant. Dès que les enfants essayaient de se joindre à elles, ils se retrouvaient seuls entre eux, car les sirènes s'évanouissaient aussitôt. Néanmoins, nous avons la preuve qu'elles observaient en cachette les intrus et n'avaient pas honte de leur emprunter des idées. Ainsi, John introduisit une nouveauté dans le jeu, que les gardiennes de but adoptèrent et qui consistait à frapper la bulle de la tête au lieu de la main. C'est un des vestiges du passage de John dans l'île imaginaire. Après le repas de midi, Wendy insistait pour que l'on fît une sieste d'une demi-heure, même si ce n'était qu'un repas fin. Les garçons s'étendaient, leurs corps brillant sous le soleil, tandis que Wendy, assise, les surveillait d'un air plein de son importance. Par un de ces beaux jours d'été, tous se trouvaient donc sur l'îlot des abandonnés. Ce rocher n'était guère plus large que leur lit, mais ils savaient ne pas prendre trop de place. Les garçons sommeillaient ou feignaient de sommeiller et se pinçaient dès que Wendy tournait la tête, car elle était très occupée à coudre. Soudain, un changement survint dans la lagune. De petits frissons coururent à la surface de la mer, le soleil s'obscurcit, les ombres passèrent sur l'eau qu'elles refroidirent. Wendy, incapable de distinguer les points de son ouvrage, leva les yeux. La lagune, d'ordinaire si riante, avait pris un aspect hostile, inquiétant. Ce n'était pas la nuit, mais quelque chose d'aussi sombre que la nuit qui était venue. Non pis que cela. Ce quelque chose n'était pas encore là, mais avait envoyé sur la mer un frisson avant-coureur pour annoncer sa venue. Qu'était-ce donc ? Alors affluèrent à la mémoire de Wendy toutes les histoires qu'on lui avait contées au sujet de l'îlot des abandonnés, ainsi nommé parce que de méchants capitaines y abandonnaient des marins promis à un prompt naufrage. En effet, la marée montante ne tardait pas à submerger totalement le rocher et les noyait. Certes, Wendy aurait dû réveiller les enfants, non seulement à cause de cette chose inconnue qui venait vers eux, mais parce qu'il est malsain de dormir sur de la pierre froide. Mais Wendy étant une jeune maman ignorait ce détail et croyait bien faire en s'en tenant strictement à la règle de la sieste d'une demi-heure après le repas. Aussi, bien que transie de peur et souhaitant ardemment ouïr une voix virile, s'interdit-elle jusqu'au bout de les réveiller, même au moment où elle perçut un battement sourd d'aviron emmitouflé et que son cœur se mit à palpiter sauvagement. N'était-ce pas héroïque de sa part ? Par bonheur pour eux tous, Peter était capable de sentir un danger jusque dans son sommeil. il se dressa d'un bond, l'œil vif et bien ouvert, et d'un cri réveilla ses compagnons. Puis il tendit l'oreille et s'écria « Les pirates !» Les autres se serraient contre lui. Un étrange sourire jouait sur sa figure. Wendy s'en aperçut et frémit. Lorsque Peter souriait ainsi, personne n'osait plus lui adresser la parole. Il n'y avait plus qu'à obéir. L'ordre claqua sèchement. « Plongez !»